Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le vendredi 24 octobre 2025. Hier, je vous parlais de Trump qui change d'avis toutes les 5 minutes. Hier, je vous parlais de Trump qui parlait de sanctions et de régulations sur les exportations à destination de Pékin. Et bien hier, Trump, encore une fois, a été l'axe central de la hausse des indices, puisque le génialissime président a confirmé sa rencontre avec Xi pour le 30 octobre. Chose qu'il avait mis en doute il y a 48 heures, et chose qu'il pourrait annuler dans les 12 prochaines heures et s'il se réveille de mauvaise humeur. Et puis au vu de la nouvelle sur le Canada qui est tombée cette nuit, on peut parier sur le fait que l'on va encore parler de Trump toute la journée. Je propose que l'on renomme le S&P 500 en Trump 500. En tout cas, à la fin de la présidence de Donald Trump, peu importe qui prendra le pouvoir, il faudra quand même se souvenir que ce que l'on a vécu dans ce monde fabuleux où un seul homme peut retourner un marché en une seule et unique publication sur les réseaux sociaux, je ne sais pas comment ce sera dans 3 ans, mais il est certain que ce sera peut-être le plus rationnel, mais vachement moins drôle. En tout cas, en ce moment, Wall Street est un endroit où l'humeur du jour peut changer très rapidement. Hier, les marchés ont encore prouvé qu'ils vivaient dans une réalité parallèle, un monde où les shutdowns, les sanctions et les guerres commerciales sont juste des bruits de fond. Ce qui compte, c'est Trump. Et puis c'est tout. Résultat, tout le monde a ressorti son plus beau costume d'optimisme. Le Dow Jones a pris 0,3%. Le S&P 500 s'est offert une hausse de 0,6%. Et le Nasdaq a refait son show à plus 0,9%, frôlant les records historiques. Juste sur le fait que Trump va finalement voir Xi Jinping, juste ça et quelques chiffres trimestriels qui continuent d'être pas trop mal. Et tout ça à la veille d'un grand moment de vérité, le CPI, l'indice des prix à la consommation, cette donnée magique que l'on attend depuis des semaines, parce que oui, après des jours de shutdown et d'administrations fermées pour cause de crise politique chronique, le Bureau of Labor Statistics a été sorti de la naphtaline pour une seule publication. Ensuite, on les remettra dans le bocal en attendant la prochaine fois ou la fin du shutdown. On n'aura pas les autres chiffres économiques tant que le shutdown ne sera pas terminé, mais au moins le gouvernement pourra payer les retraites qui sont indexées sur l'inflation. L'économie mondiale est dans le noir, mais les retraités américains, eux au moins, toucheront une pension qui tient la route. Même si on est en droit de douter des calculs du BLS qui ont surtout brillé par leur incompétence ces derniers mois, ces dernières années, ces 20 dernières années au moins. Pendant ce temps-là, les obligations, les taux obligataires ont tenté un petit coucou, on est encore là. Le 2 ans a grimpé à 3,48, le 10 ans flirte avec les 3,99, histoire de rappeler que Powell n'a pas encore juré devant la Cour suprême qu'il va vraiment baisser les taux. On a aussi noté que la Fed est en train de réduire la taille de son bilan, ce qui techniquement aurait tendance à pousser les taux courts à la hausse. Mais sur les marchés, tout le monde s'en fout. Pour l'instant, on a décidé que la Fed continuait, même si les derniers sondages sur les taux laissent à penser que certains investisseurs minoritaires se demande si, en fonction des chiffres du CPI de tout à l'heure, Powell ne serait pas capable de nous faire un truc comme « je vous baisse les taux cette fois, mais je laisse planer le doute pour ce qui est des cadeaux de Noël », ça sera une surprise. À l'heure où je vous parle, les chances de 2 baisses de taux d'ici décembre sont passées de 95,5% à 91,9%. Un léger doute nous étreint. Très léger. Et puis, il faut aussi noter qu'il y avait une ambiance de dingue hier à Wall Street, puisque plus c'est irrationnel, plus ça monte. Les secteurs les plus fous, quantum computing, crypto, énergie nucléaire, se sont réveillés comme s'ils avaient reçu un double expresso en intraveineuse. On en parlait hier après les rumeurs comme quoi le gouvernement US allait prendre des participations dans le quantum computing. Tout s'est envolé après s'être pété la gueule la veille à cause du nouveau processeur de Google. Et tout s'est redégonflé un peu parce que le gouvernement US a annoncé via le compte X de Trump qu'il n'avait aucune intention de prendre des participations dans le secteur du quantum computing. Pour l'instant, ça n'a pas encore provoqué un sell-off, parce que les experts en psychologie boursière noteront que 1, Trump peut changer d'avis, que 2, il n'a pas dit jamais. Bon, il n'a pas dit non plus pour le moment, mais la porte n'est pas fermée. Et puis 3, Trump peut changer d'avis. Et 4, Trump peut encore changer d'avis, ce qui statistiquement est plus que probable. Bref, hier les marchés ont terminé en hausse, mais par contre on retiendra quand même qu'il n'y a plus beaucoup d'humanité dans ce marché et que notre vision se limite au prochain poste de Donald Trump. Du côté de chez nous, pendant que le SMI terminait en baisse parce qu'il fallait digérer les chiffres de Roche qui n'étaient pas aussi sexy que ceux de Nvidia à chaque trimestre, la Bourse de Paris a terminé la séance de jeudi en légère hausse, portée par quelques mouvements on va dire, contrastée parmi les grands noms. Kering a créé la surprise du jour en bondissant de 8,7%. Malgré des ventes en baisse de 10%, les investisseurs ont préféré saluer l'arrivée de Luca De Meo à la tête du groupe et la vente de la division beauté à L'Oréal pour 4 milliards d'euros, perçue comme un premier pas vers le redressement, même si Gucci reste en panne d'inspiration. À l'inverse, c'était la douche froide pour Dassault Systèmes qui s'est crashé 13% suite à la révision de ses ambitions annuelles à la baisse pour cette année. Même punition chez STM Micro qui baissait 14% après avoir été victime d'une chute de 32% de son bénéfice net. Comme quoi, il y a semi-conducteurs et semi-conducteurs. C'est pas pareil, parce que c'est différent. Et puis après les sanctions américaines sur le pétrole russe, le baril s'est envolé et est en hausse de 10% depuis 4 jours. Total en a bien profité, comme tout secteur dans le reste du monde. Ce matin, le baril est à 61,57. Ambiance euphorique en Asie ce matin. On le sait, Donald Trump a confirmé une rencontre avec Xi Jinping la semaine prochaine. Et ça suffit pour faire oublier la guerre commerciale. Les marchés se détendent et les indices montent. En tête, la Corée du Sud, le Kospi grimpe de plus de 2%, au plus haut de tous les temps, tiré par les semi-conducteurs. En Chine, l'annonce d'un nouveau plan quinquennal axé sur la tech et la demande intérieure redonne confiance. Le CSI 300 prend 0,5%, le Hang Seng 0,6%. Du côté du Japon, les chiffres sont mitigés. Inflation toujours au-dessus des 2%, industrie en berne. Mais Tokyo s'envole quand même de 1,55%, porté par la promesse d'un plan de relance XXL de la nouvelle première dame et ministre Sanae Takaishi. On verra bien. Et puis, bien sûr, tout le monde attend le CPI américain, même si là-bas, on sait que quand il sortira, tout le monde sera à la maison. L'or est à 4 116 $ et il s'accroche. On s'interroge sur la chute. On se demande si ça va aller plus bas ou pas. On sait que ça va aller plus haut et que c'est pas l'objectif qui fait douter. C'est le chemin pour l'atteindre. Hier soir, une grande banque américaine a annoncé que l'or serait à 8 000 d'ici la fin de la décennie. Ça devrait donc bien se passer. Il faudra être patient. Du côté du Bitcoin, ça remonte à 111 000. Le pardon offert au patron de Binance par Trump, oui, encore lui, ne doit pas y être étranger. Du côté des news du moment, on va parler des publications trimestrielles puisque là, au moins, c'est du concret. Et c'est pas influencé par le président américain, enfin pas trop. Newmont a publié de bons résultats portés par les records de l'or, bien sûr, mais malgré ça, le titre a reculé 2% after close. Le groupe prévient que son cash flow sera plus faible à cause des travaux coûteux à Yanacocha. La production d'or chute de 15% à 1,4 million d'onces. Entre maintenance, gisement épuisé et intégration de Newcrest, les analystes grincent des dents et se disent si Newmont ne surperforme pas avec l'or à 4000, quand est-ce qu'elle va le faire ? Ensuite, il y a Honeywell, qui a surpris tout le monde. Bénéfice de 2,82 $ par action, au-dessus des attentes, et vente en hausse de 7% à 10,4 milliards de dollars. Le titre gagnait plus de 4%. Mais Honeywell relève également ses prévisions pour la fin de l'année, et ce sera malgré la future scission de Solstice prévue fin octobre, qui retranchera environ 700 millions de revenus. Côté activité, la division aérospatiale reste le moteur, avec une hausse de 15%, tandis que les bâtiments et solutions énergétiques progressent aussi. Ford a publié des résultats meilleurs qu'attendus, 0,45 $ par action contre 0,35 attendu, pour un chiffre d'affaires en hausse de 50 à 50,5 milliards, plus 9%. Résultat, le titre gagne plus de 4% after close, mais attention, le constructeur revoit ses ambitions à la baisse, bénéfice opérationnel attendu entre 6 et 6,5 milliards contre 6,5 à 7,5 milliards précédemment. En cause, les droits de douane qui vont coûter 700 millions et un incendie chez un fournisseur d'aluminium. Le PDG Jim Farley reste confiant et maintient le dividende à 0,15 $ tout en promettant que Ford tiendra le cap de l'électrique, même si c'est pas simple. On notera au passage que GM va mieux, a mieux géré les droits de douane que Ford. Peut-être qu'ils devraient se parler. Intel. Il y a encore quelques mois, on parlait d'Intel comme un dinosaure du semi-conducteur, un géant dépassé par Nvidia et AMD, perdu dans sa propre inertie. Et pourtant, le groupe a publié des résultats nettement au-dessus des attentes. 0,23 $ de bénéfice par action, quand Wall Street n'espérait qu'un seul centime. Le chiffre d'affaires grimpe à 13,7 milliards de dollars. Là encore, mieux qu'attendu. Résultat immédiat, le titre prenait 7% de plus hier soir. C'est le quatrième trimestre consécutif que la direction parle de progrès régulier. Et cette fois, ça se voit. Sous la houlette du nouveau patron Lip-Bu Tan, Intel montre enfin qu'il sait encore produire et délivrer. La marge brute atteint 40%, très au-dessus des prévisions. Et fabuleux détail aux oreilles des actionnaires, la société reconnaît qu'elle n'arrive pas à satisfaire toute la demande. Oui, Intel est en sous-capacité, un problème qu'on préfère largement à celui d'avoir des stocks qui débordent dans tous les coins. Pour le prochain trimestre, la société vise un bénéfice de 0,08 dollars, et jusqu'à 13,8 milliards de revenus, tout en admettant que les contraintes d'offres dureront jusqu'en 2026. Traduction, il y a de la demande et le moteur tourne enfin à plein régime. Mais la vraie bataille, c'est celle de l'intelligence artificielle. Longtemps à la traîne, Intel compte bien revenir dans la course, soutenu par Nvidia, qui a investi 5 milliards de dollars dans le groupe. Ensemble, ils veulent créer un nouveau cycle de puces optimisées pour l'IA, lancé chaque année, histoire de prouver qu'il y a de la vie après le CPU. En coulisses, la machine industrielle se remet en marche. La fonderie d'Arizona, la Fab 52, tourne à plein régime. Les nouvelles puces Panther Lake sont prêtes à débarquer. Bref, Intel n'a pas encore gagné la guerre, mais après des mois et des années plutôt de commun stratégique, le patient respire à nouveau et Wall Street commence à y croire. Ce qui nous amène au coup de maître de Trump. Oui, encore lui, Trump, le président, est le meilleur hedge fund manager du monde. Avec la performance des investissements de l'administration Trump chez Intel, on pourrait commencer à croire que Trump a trouvé le secret de la performance absolue. Et puis tous ces investissements affichent jusqu'à maintenant au moins 80% de performance et deux flirtent déjà avec les 150%. Et c'est sans compter les prix d'Intel hier soir after close. Résultat, un portefeuille désormais valorisé à 17,2 milliards. En clair, pendant que la plupart des hedge funds pagaillent et rament pour battre le S&P 500, Trump et son équipe font mieux que Wall Street et de très très loin. Reste à savoir si c'est de la stratégie, du timing politique ou juste qu'ils sont plus égaux que les autres. Et puis ça vient de tomber en fin de nuit. Trump nous en a encore fait une belle. Il a terminé toutes les négociations commerciales avec le Canada parce qu'un spot canadien montrait Ronald Reagan critiquant les tarifs douaniers. Oui, Reagan, le vrai, remixé et sans autorisation. L'annonce financée par Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, visait à tacler la politique tarifaire américaine. Trump, furieux, accuse Ottawa d'avoir frauduleusement utilisé Reagan pour influencer la Cour suprême qui doit statuer sur la légalité de ses taxes. Verdict, toutes les négociations sont terminées. La fondation Reagan confirme que la pub a été modifiée sans dire qu'elle ment. Ford, lui, veut diffuser le spot partout. Bref, pendant que le monde regarde la Chine et les taux, Trump déclare la guerre et a une pub des années 80. La saga avec le Canada va donc continuer. Et on aura probablement un autre son de cloche lundi matin. Pour ce qui est des attentes du jour, on aura plein de PMIs, le fameux CPI, et les chiffres de la confiance du consommateur version Université du Michigan. Ensuite, Trump prendra l'avion pour sa tournée asiatique. La Malaisie d'abord, puis ira rencontrer la nouvelle patronne du Japon, avant de finir en beauté avec son meeting avec Xi Jinping, sans compter que la semaine prochaine, il y aura la Fed. Oui, la Fed qui va baisser les taux. Et puis, les publications des 5, de 5 Magnificent 7. Sachant que Tesla a publié avant-hier et que Nvidia publiera au mois de novembre, je vous laisse faire la liste. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la semaine prochaine sera chaud patate et que si les planètes sont alignées, les records vont tomber comme des mouches. Ou pas. Bref, Wall Street, c'est devenu une cour de récré géante avec Trump pour l'instituteur lunatique et les marchés qui lèvent le doigt pour savoir s'ils ont le droit d'être optimistes aujourd'hui ou pas. On joue, on parie, on s'excite dans tous les sens, on oublie la macro parce qu'il n'y en a pas. On prie pour que le CPI soit calculé par des mecs, soit calculé correctement par des mecs qui sont en training toute la journée depuis 3 semaines et on rafraîchit X toutes les 30 secondes histoire de ne pas rater un tweet de Trump, et tant qu'il le fait dans le bon sens, avec bon sens, on garde le cap. Pas certain que ça dure éternellement, mais en attendant, on surfe la vague. Excellent week-end à tous, et on se retrouve lundi matin.